Les enjeux internationaux.
À 6h50, bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Herner, et comme promis donc le Proche-Orient avec notre invité Bichara Kader, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Tout à l'heure dans le journal, Amélie Perrier a rappelé qu'il y avait 10 ans la victoire électorale du Hamas. On va parler des impasses du conflit israélo-palestinien, l'occupation par Israël des territoires palestiniens et du Golan syrien en 1967, puis les colonisations. On va marquer d'ailleurs l'année prochaine le cinquantenaire de l'occupation des territoires. 1973, la guerre du Kippour, 80, l'annexion par Israël des Jérusalem-Est, 81, l'annexion du Golan, 93, une date clé, reconnaissance Israël-OLP, accord d'Oslo. On ne va pas multiplier les références chronologiques, on les retrouvera sur notre site internet franceculture.fr, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le mot impasse est beaucoup trop faible, en fait, Bichara Kader.
Le mot ?
Impasse est trop faible, oui, par rapport à ce qui se passe depuis 50 ans.
Écoutez, vous avez bien rappelé tous les jalons du conflit israélo-palestinien. Je dirais simplement, lors d'Oslo, il y a eu une double reconnaissance. Israël reconnaissait l'OLP et donc qui va déboucher sur l'autorité palestinienne en 1994, mais les Palestiniens ont reconnu l'État d'Israël. Et donc jusqu'à maintenant, nous attendons la reconnaissance par Israël du droit à l'autodétermination du peuple palestinien sur le territoire occupé en 1967, comme le demande et l'exige la communauté internationale. Aujourd'hui, le conflit est gelé parce que les regards de la communauté internationale sont détournés vers des conflits beaucoup plus brûlants, beaucoup plus sanglants en Syrie et en Irak. Mais le conflit est loin d'être résolu et le conflit israélo-palestinien, à mon sens, deviendra une bombe à retardement la communauté internationale ne lui apporte pas une solution durable.
Alors on va voir quelle responsabilité des uns et des autres rapidement, mais il faut rappeler que dans les accords d'Oslo, il y avait un règlement définitif, un statut définitif prévu pour la Palestine en 1999, et puis qu'en 2003, la feuille de route qui a été signée par les États-Unis, la Russie, toute l'ONU en tant que telle, et évidemment l'Union européenne, prévoyait un État palestinien en 2005. C'est-à-dire qu'au fond, cet État est repoussé. Tout le monde sait qu'un jour il existera avec Jérusalem, même les Américains le disent, les États-Unis d'Amérique, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et en même temps, rien ne se passe.
Écoutez, les paramètres de la solution du conflit sont désormais connus. On connaît la position du quartet, on connaît la position des États-Unis. Celle des Européens est encore la plus nette. Sur le plan déclaratoire, il n'a rien à dire. Il y a une sorte de consensus international pour une solution pour la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, un État qui serait souverain, pleinement souverain, contigu et non pas fragmenté. Il y a un État viable à la fois sur le plan politique et sur le plan économique, c'est-à-dire ouvert sur l'interland arabe. Eh bien, on répète la même chose depuis des années de manière lassante et répétitive, et on ne voit pas les prémices de cet État, et cela produit en Palestine une grande déception, une désillusion, et cela produit évidemment dans la communauté internationale une sorte de lassitude par rapport à un conflit qui dure, mais qui semble aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, dans l'impasse.
Alors justement, responsabilité d'Israël, évidemment, sur le plan juridique, ça, la question est bien connue. Responsabilité des Palestiniens qui se sont divisés en 2007, donc ça fait 10 ans, donc il y a 9 ans, donc entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Responsabilité des États-Unis, somme toute considérable. Responsabilité de l'ONU, mais on ne lui en veut pas parce qu'elle ne représente que la puissance du moment. Au fond, qui peut quoi? On a toujours tendance à penser que seuls les États-Unis peuvent faire plier Israël dans l'occupation des territoires.
Écoutez, le danger dans sur cette question, c'est de mettre toutes les parties sur
le même plan.
Le même plan et faire assumer à l'autorité palestinienne une responsabilité dans ce qui se passe, ou simplement aux États-Unis, aux Nations Unies, ou même à l'Europe. Il est clair que le premier responsable, que vous l'avez rappelé, c'est l'État d'Israël qui occupe ce territoire depuis 1967. Cela veut dire que 80% des Palestiniens qui aujourd'hui vivent dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza n'ont connu autre chose que l'occupation avec son cortège d'humiliation, de répression, de liquidation extrajudiciaire, de détention sans jugement, de colonisation permanente. Donc la première responsabilité, c'est celle de l'autorité d'occupation qui, en dépit des pressions internationales, fait la sourde oreille et agit de manière impunie. Il n'y a pas aujourd'hui aucune instance internationale qui fasse comprendre à Israël qu'il ne peut pas avoir à la fois la paix, la sécurité et les territoires, et que ces violations doivent être s'arrêter, en tout cas être punies. Bien sûr, l'autorité palestinienne est divisée, mais jusqu'à 2007, elle n'était pas. Et pourtant, on n'a pas avancé d'un pouce dans le processus de paix lorsque Arafat tenait le peuple palestinien, était le chef historique du peuple palestinien. Eh bien, il est mort dans son quartier à moitié détruit. Sans que cela suscite une vive émotion dans la communauté internationale. Nous avons une cause juste qui est la cause du peuple palestinien, mais malheureusement, les avocats palestiniens de cette cause n'ont pas été à la hauteur du défi. Un Hamas excité qui veut lutter contre Israël jusqu'au dernier Palestinien, et une autorité palestinienne sans autorité qui est un peu qui coordonne sécuritairement avec l'État d'Israël et qui, évidemment, essaie de donner des gages de bonne volonté à la communauté internationale et surtout à ses bailleurs de fonds, car les Palestiniens vivent de la charité internationale, notamment européenne.
Des Européens, bien sûr. Oui. Et dites-moi, Bichara et Kader, est-ce que c'est excessif de dire que les Palestiniens sont émiettés et qu'Israël, ça ce n'est pas une, c'est une évidence, est isolé quand même, y compris isolé des Américains souvent?
Là, à l'évidence, l'image d'Israël s'est ternie au cours des dernières deux décennies, au moins depuis l'intifada, depuis 1987. Partout où je vais, en Europe, en Belgique, l'empathie pour les souffrances du peuple palestinien est évidente et, je crois, réelle. Et qu'aujourd'hui, les gens disent, mais comment la communauté internationale peut-elle accepter davantage qu'une telle situation perdure avec une occupation sans coût? Et pour, en ce qui concerne les Palestiniens, il est clair que cette fragmentation, cet émiettement de la Palestine entre Gaza et la Cisjordanie, entre le Hamas et l'autorité palestinienne, ne sert pas naturellement le négociateur palestinien qui se présente toujours en position de force, mais même lorsqu'il se présentait en position de faiblesse. Mais lorsqu'il se présentait en position de force, il n'obtenait rien, sinon davantage de colonisation. Tant et si bien que s'il y a quelque chose qui a bien bougé dans la région de la Palestine-Israël, c'est bien la colonisation israélienne, la multiplication des checkpoints et des humiliations quotidiennes. Bien sûr, la responsabilité des États-Unis est écrasante dans la mesure où ils se sont autoproclamés les parrains du processus de paix. Or, ce parrain n'a pas été neutre, à tel point que Benjamin Netanyahu a pu se rendre aux États-Unis, parler au Congrès américain, recevoir 22 ovations debout, alors que le président américain n'a même pas été, pas donné son aval à cette visite. C'est pour vous dire que aujourd'hui le Congrès américain joue un rôle extrêmement dangereux qui peut porter préjudice non seulement à terme à Israël et son peuple, mais porter un terme aux intérêts américains occidentaux et susciter un vif ressentiment, voire même une rage dans la jeunesse arabe et musulmane qui peut se traduire de manière la plus abjecte par des actes de terroristes qui viseraient alors des innocents.
Oui, alors il faudra parler aussi rapidement de l'islamisme radical, des terrorismes divers, des guerres dans toute la région. On l'a mentionné évidemment sur notre site Internet. Merci Bichara Kader, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et puis demain, nous parlerons du Royaume-Uni avec le Parti travailliste.
Merci Thierry Garcin. Voici maintenant le programme de la matinée sur France Culture par Anne de Biran. Bonjour Anne.